passe maintenant à notre débat critique de la soirée et sans plus attendre, penchons-nous sur Making of, un film de Cédric Kahn qui devient le premier réalisateur à repasser au comptoir du cinéma puisque c'était lui déjà qui avait signé le procès Goldman dont nous vous parlions dans l'épisode 3. On le retrouve néanmoins ici sous un jour bien différent et sans doute plus réjouissant puisqu'il nous offre une comédie sur le monde du cinéma, exercice toujours périlleux néanmoins pour le cinéma de filmer le cinéma tant il est possible de verser dans le nombrilisme. Ici, en tout cas, avant de parler du film, disons qu'il s'agit du tournage impossible du nouveau long métrage de Simon, c'est Denis Podalydès, réalisateur engagé de gauche qui a pour sujet une grève et une tentative d'autogestion dans une usine, que l'on sait juste à 400 bornes de Paris, mais ça peut vraiment être n'importe où autrement. Son acteur principal, c'est Alain, qu'incarne Jonathan Cohen, imposé par des coproducteurs intéressés d'abord par la rentabilité et qui retirent leur apport d'un million d'euros tout de même lorsqu'ils apprennent que le film n'aura pas de happy ending. Alain, tout en voulant à fond devenir l'ouvrier qu'il incarne, car le film de Simon s'inspire d'une histoire qui a eu lieu, les figurants jouant leur propre rôle, mais pas dans notre réalité à nous, c'est compliqué de résumer tout ça quand même, donc ces figurants-là conseillent les acteurs du film dans leurs interprétations. Donc, le film, celui de Simon, prend l'eau de partout, le producteur un peu véreux ment et magouille, et au milieu de tout ça, Stéphane Crépon incarne Joseph, figurant aspirant cinéaste, embauché à la va-vite pour réaliser le making-of du film, tenir le journal de bord, pour reprendre les mots de Podalydès, de ce film à la dérive. Donc, un film dans le film dans le film, tout cela est très méta mais très intelligent, même s'il nous s'y perd un peu, j'ai personnellement passé un très bon moment hein, devant ce film qui pêche peut-être parfois par excès de Smart et par excès de Jonathan Cohen mais dont les interprètes sont tous très convaincants et convaincantes. Qu'en pensez-vous? Et on commence avec Clémence.
Donc moi c'est un avis très positif aussi, j'ai beaucoup aimé effectivement, j'avais beaucoup aimé le procès Goldman mais ça fait du bien de revoir une comédie de Cédric Kahn, donc c'était vraiment un très bon moment aussi. J'ai trouvé que l'accumulation des fils narratifs, au contraire, ne perdait pas le spectateur, que c'était assez réussi, même si je reconnais qu'effectivement, il y en avait vraiment beaucoup. Mais justement, j'ai trouvé que c'est ce qui faisait le sel du film, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, on y reviendra.
Merci Clémence. L'avis de Nathan?
J'ai pas vraiment aimé, pour le coup. Je trouve que c'est un film... qui d'une part est assez scolaire quand même dans sa réalisation je trouve et qui aurait gagné à l'être moins parce qu'il y avait de quoi faire pourquoi par exemple il n'y a pas plus d'alternance de point de vue, de focalisation, de caméra, enfin, on a un seul plan de la caméra du making of alors qu'il filme quasiment tout le film, Joseph donc, et je trouve ça dommage et de manière générale je trouve que c'est un film qui manque un peu de folie et même sans enfin pas forcément de folie mais un peu d'autodérision. Tu disais que c'était pas un film nombriliste et je suis d'accord que enfin en tout cas il a l'ambition de pas l'être mais que de fait ce décentrement est je trouve raté. Enfin pareil on y reviendra sûrement mais globalement ouais j'ai été assez assez déçu et je me suis assez ennuyé aussi je dois dire. Voilà.
Merci Nathan, l'avis de Cassien.
Alors moi j'aurais un avis un peu nuancé parce que justement vu que le film offre plein de films narratifs et plein de niveaux différents. Il y avait des niveaux qui étaient intéressants et des niveaux qui étaient quand même beaucoup moins intéressants. Notamment l'histoire d'amour dont je n'ai pas vraiment compris l'intérêt. Mais par contre, je trouvais principalement que c'est le fait que le réalisateur ait choisi que Simon réalise un film social était malin parce que ça permettait justement d'aborder le cinéma comme pratique sociale et aussi le fait que tout simplement le cinéma suppose une organisation sociale complexe. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez réussi de ce point de vue-là, parce que ça permettait de bien mettre en avant comment le cinéma fonctionnait, même si on peut quand même lui reprocher que, malgré tout, ça sente beaucoup autour du metteur en scène.
Oui, c'est vrai. Je suis assez, vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, il y a tout un travail très complexe, très intellectuel et intelligent, vraiment qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans une comédie sur le rapport à la réalité. Avec un décor qui se révèle peu à peu comme tel, parce que la scène introductive d'ailleurs perd un peu le spectateur, hein, ça ressemble plus à du Cédric Jiménez dans Bac Nord ou autre, enfin que j'ai pas vu mais que je suppose être qu'autre chose. Donc on a des gens qui jouent leur propre rôle, mais est-ce qu'ils le jouent dans le film de Cédric Kahn, comme les personnages vivent dans les décors de leur film, les décors du film de Simon Podalydès deviennent aussi les décors de Cannes, mais c'est atteindre un niveau de méta qui est parfois vertigineux et où on se perd. Il y a ça aussi avec la musique, à un moment qu'on croirait qu'elle est extradiégétique, elle est hors de... du film, et en fait non, c'est quelqu'un qui joue au piano. La réalité est brouillée aussi sur les mensonges du producteur, etc. Il y a une question sur le placement de la caméra, laquelle c'est, celle de Podalydès, celle du jeune garçon, celle de la webcam, parfois, quelle... et finalement, qui moi me perd un petit peu aussi, c'est-à-dire que franchement, je disais que j'avais bien aimé le film, mais il y a une grosse nuance à apporter... sur le côté, il veut peut-être en faire trop.
Je suis assez d'accord. Et puis, il y a un autre truc plus... déjà, je trouve que le film est très sombre, visuellement. La colorimétrie est assez déprimante, je trouve. Très terne. Et ça manque de vie, je trouve. Et ça pose un autre problème, c'est qu'à la rigueur, pourquoi pas, effectivement, cette direction artistique. Mais là où, moi, je trouve que ça passe pas, c'est que l'esthétique du film dans le film et celle du film sont... quasiment interchangeable, ce qui d'une part, tu l'as dit, brouille un peu les passages de l'un à l'autre, et d'autre part rend compliqué, je trouve, la mise en abîme, dans la mesure où le film réalisé peine un peu à être crédible, je trouve. Moi j'ai beaucoup pensé à un film comme Ne coupez pas, où il y avait eu un remake aussi plus récemment par Azanavicius qui s'appelait Coupé, bizarre, mais enfin voilà, et où pour le coup ce film-là trompait le spectateur par la mise en abîme jusqu'au retour à la fiction cadre où il y avait un énorme décalage qui créait un effet comique. Et ici, les scènes de tournage, au contraire, je trouve qu'elles détonnent trop peu par rapport au reste du film, ce qui, à mes yeux, pose un autre problème un peu plus large, c'est que ça va dans le sens, je pense, d'un, en tout cas c'était mon interprétation, cette interchangeabilité va dans le sens d'un parallèle entre le sort réservé aux ouvriers dans l'histoire racontée et celui de l'équipe de tournage dans le film principal, donc. Et dans le même sens, d'ailleurs, il y a la structure en acte qui, je trouve, ne sert strictement à rien, ou en tout cas rien de plus qu'à présenter le film comme une tragédie, tragédie qui est le terme par lequel on désigne constamment le film dans le film, donc. Et donc, il y a cette espèce de parallèle, et je trouve que ce parti pris de l'analogie entre les ouvriers et l'équipe de tournage, si c'est un parti pris qui peut être intéressant, ici, il est vraiment bancal, je trouve. Enfin, la scène de fin où Simon va parler à sa femme, il lui dit « le capital a encore gagné », je trouve ça assez maladroit. Je pense que ça pourrait être exploité très intelligemment, mais je pense qu'ici, c'est pas assez approfondi. Et que le traitement et le ton réaliste, voire politique, voire sociaux du film sont maladroits, sinon quasiment carrément problématiques en fait. Et je pense que pour que ça fonctionne vraiment, il aurait fallu un supplément d'autodérision, d'absurde, ou une pointe de décalage qui peuvent faire fonctionner ce genre de fiction sur le milieu du cinéma. Et qui ici, exception faite de quelques gaffes visuelles, de quelques répliques qui vont dans cette direction... et de scènes qui fonctionnent bien pour le coup dans la mise en abîme, comme celle du bêtisier par exemple, où Jonathan Cohen, le personnage de Jonathan Cohen, Alain, c'est ça, et Nadia se tape une barre pendant la scène. Ça, c'est, je trouve que ça fonctionne assez bien, mais sinon il n'y a pas assez de rupture, je trouve. Et donc on est vraiment dans cette analogie et donc cette dimension sociale qui je trouve est assez maladroite. Il y a un moment où une des membres de l'équipe de tournage dit de fait, non, on n'est pas comme les ouvriers dans le film et tout. Et elle a raison, quoi, je trouve. Et c'est bien de l'avoir fait le dire. Mais c'est la seule qui le dit, ça dure 5 secondes. Et le reste du film va vraiment dans cette direction que je trouve globalement assez casse-gueule, quoi.
Je suis assez d'accord que la scène à laquelle tu fais référence, il faut peut-être la raconter aux auditeurs, c'est une scène que j'ai trouvée très drôle, mais aussi en partie parce qu'elle était assez maladroite, je suis d'accord. C'est une scène donc où l'équipe fait une fête pour fêter la presque fin de tournage, et là il y a l'annonce de la mise en danger financière du film, et donc la question se pose de continuer à tourner sans salaire ou pas. Et donc une partie de l'équipe refuse, parce que ce sont souvent les techniciens qui ont les salaires les plus bas et donc qui ne peuvent pas se permettre de passer 2 semaines sans salaire. Et de l'autre côté, une opposition avec, alors d'abord, le personnage d'Alain, qui effectivement est l'acteur principal, qui est donc payé en fonction des entrées que feront le film. Et donc c'est comme s'il était interviewé au capital quasiment. Et donc ça fait de lui le bourgeois de l'équipe en quelque sorte. Et effectivement, il aura un salaire 100 fois supérieur, donc son point de vue est en quelque sorte, n'a pas lieu d'être par rapport à la réalité des techniciens, je veux dire. Et de l'autre côté, une autre partie de l'équipe qui se définit comme artiste, ce sont les décorateurs, les costumiers, les costumières, qui font passer l'art au-dessus du droit du travail et qui sont prêts à continuer. Et donc, il y a un dialogue qui est adopté par l'un des mécaniciens en particulier, qui rejoint en fait les mots que Simon fait dire aux ouvriers dans le film en effet. Et au tout début, on sent que c'est fait exprès, mais on doute un peu, parce que ça pourrait effectivement être les deux arcs narratifs qui se rejoignent jusqu'à se cogner de façon un peu maladroite, ou au contraire, c'est trop gros en effet. Et en réalité, on n'y croit pas du tout que l'équipe de cinéma a le même sort que les ouvriers. Et effectivement, ça culmine donc dans le moment où la cantinière de l'équipe dit « Mais moi, j'ai été à l'usine à 16 ans. Moi, j'ai gagné 1200 euros par mois et pas par semaine, comme là, c'est le cas pour nous aujourd'hui. » Et heureusement, il y a cette intervention. Mais justement, moi, j'ai trouvé que c'était une résolution à la scène. Et surtout qu'à la fin, ça dégénère, les acteurs commencent à se battre. Donc finalement, j'ai trouvé que la scène était assez drôle. Mais en partie à cause de cette maladresse dans le dialogue, qui est peut-être voulue en réalité.
Moi, je pense que, alors je trouve que justement, je pense que c'est fait exprès ce truc, justement, la colorimétrie. En fait, je pense que le réalisateur a vraiment voulu brouiller les deux arcs narratifs. Mais le problème, c'est qu'en même temps, il l'a pas fait jusqu'au bout, parce qu'il y a des moments, en fait, il ne cesse de dire qu'il y a un lien entre les deux. Et même, je crois que c'est Simon à un moment qui dit « Je suis un peu comme mon personnage principal. Oui. » Il y a tout le temps des petites références comme ça. Les scènes sont exactement pareilles. Et même des fois, ça crée un peu des moments de gêne ou de non-compréhension. Moi, je pense au moment du baiser justement entre Nadia et Alain. Et justement, qui est exactement tourné de la même façon que le baiser entre Nadia et je ne sais plus le nom du...
Joseph,
merci. Ouais. Et du coup, ça crée une sorte de moment bizarre où on ne comprend pas trop... où il va en venir en fait, et du coup ça crée un effet curieux, et je trouve que ça crée presque un effet de critique de son propre film de Cédric Kahn, un peu en mode je mets une histoire d'amour parce qu'il faut en mettre une, parce qu'il y a plein de moments ils font des références comme ça, ils font des réflexions sur ce genre de choses. D'ailleurs, il y a un peu MeToo en filigrane à certains moments, on lui fait des réflexions parce que c'est une actrice de 25 ans et que lui il est beaucoup plus vieux et tout ça, mais du coup ça crée, on sait pas si c'est fait exprès, parce que pour le coup il floute vraiment. Mais je trouve que ça crée vraiment un sentiment bizarre, surtout la fin, qui fait une espèce justement d'happy ending qui est critiqué dedans.
Oui, complètement. Oui.
Et c'est très bizarre. Après, je sais pas si justement il y a une volonté qu'on remette en cause la fin du film en disant ça se trouve, c'est en fait il y a une mauvaise fin, mais elle était coupée. Parce que justement, je sais pas, je crois que les dernières images, c'est justement, tu vois juste l'équipe qui range. Et tu pourrais te dire, ça se trouve, c'est juste l'équipe qui range après le fait que le film soit terminé pour manque de budget, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a à la fin le Deus Ex Machina, c'est que du coup, je sais pas si on peut le divulgâcher, mais il se passe un truc, il arrive quelque chose au réalisateur qui fait qu'ils ont un sursis et qu'ils trouvent des financements, enfin bref, et que donc ils arrivent à finir le film. Et c'est vrai qu'il y a du coup cette espèce de happy end, alors que tout le sujet du film, c'est est-ce que le film dans le film va bien se finir ou pas, etc.
C'est ça, il y a deux happy ends alors que.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas, je pense qu'effectivement, mais à un niveau méta, vraiment
ouais, c'est ça.
Au 25e degré, ou peut-être que ça fonctionne, mais j'ai trouvé que, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui l'ai pas percuté, mais ça a pas vraiment fonctionné sur moi. Ouais.
Non, mais je suis d'accord, hein, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est dommageable aussi. C'est-à-dire que quand tu peux pas situer le point de vue du réalisateur sur ses personnages, t'en viens à... Enfin, je veux dire, il y a un manque d'empathie complet avec les personnages. Ce que tu disais, Cassien, qui est exact, ça montre que les personnages sont des personnages, qu'ils n'existent pas, et moi je suis désolé, je vais aussi au cinéma pour croire à l'histoire qu'on est en train de me raconter, et là t'as l'impression que en gros t'as encore un point de vue, un recul supérieur par rapport à tous les films dans le film, puisque t'as l'impression que le cinéaste est là pour dire ah t'as vu c'est pas vrai, je suis en train de me moquer de tout ça là, et pourtant en comédie plus encore que dans le drame ou ailleurs, on a besoin de s'attacher un minimum au perso, et là à part Simon Podalydès, qui d'ailleurs par moments est vraiment chiant aussi, hein, on s'en fout un peu des personnages, hein, c'est-à-dire que ils m'ont rarement, on va dire, vraiment intéressé. exprès. Heureusement, le film ne repose pas que là-dessus et ils ne sont pas non plus antipathiques. Hein. Je disais que j'avais passé un bon moment. Mais c'est sûr qu'au niveau du travail des personnages, il y a un gros manque d'empathie et d'intérêt de la part du spectateur pour ce qu'on est en train de nous montrer. Quoi.
Mmh. Ouais, je suis...
Non, vas-y, vas-y.
Moi, je suis d'accord sur les personnages, de fait que j'avais aucune empathie pour eux, mais pour aucun, quoi. Y a Jonathan Cohen qui joue quasiment son propre rôle, et donc, comme souvent dans ses films, hein. Ouais, c'est ça. Mais ici, du fait de cette mise en abîme, ça marche assez bien, et ça donne justement à son jeu cette autodérision et ce recul critique qui, je trouve, sont assez salutaires dans le film. Mais je trouve qu'à part son personnage, ils sont tous chiants. C'est une constellation d'ego hors sol, et que le film, malgré toutes ses tentatives, ne parvient jamais vraiment à ramener sur Terre plus qu'en surface, quoi. Oui. Et je trouve ça dommage que Jonathan Cohen, ce soit le seul dont on se fout de la gueule, en fait. Alors que, dans les faits, Nadia, elle fait les mêmes petites crises d'ego que lui, sous couvert de révolte pour le collectif. Puis aussi, en dehors du tournage, elle trompe son mec avec Joseph. Lui-même la fout ensuite dans la merde en allant bourrer, embrouiller son mec dans sa chambre d'hôtel. C'est terrible. Et alors que lui-même s'est montré hyper égoïste envers sa sœur et envers l'équipe de tournage avec ses grandes théories sur les metteurs en scène. Moi j'avais vraiment beaucoup de mal à apprécier les personnages, quoi.
Ah non, moi je suis pas d'accord. Peut-être que le manque d'empathie, la difficulté qu'on a à ressentir de l'empathie, c'est dû au fait qu'il y a effectivement il y a un effet un peu troupe, en fait, presque troupe de théâtre, paradoxalement, puisque c'est un film, il y a une galerie de personnages, et donc finalement tous n'ont que très peu de, enfin pas très peu, mais ont peu de temps d'écran par rapport à l'entièreté du film, puisqu'il faut le partager entre tous ces personnages. Et effectivement, à part Simon, le réalisateur, les autres, et éventuellement Alain, l'acteur principal, Jonathan Cohen en effet, les autres partagent un peu le temps d'écran, et du coup, forcément, on les voit moins. Mais en vrai, j'ai pas tout à fait la même analyse, puisque pour le coup, Jonathan Cohen, au contraire, pour une fois, j'ai trouvé qu'il était, alors pas à contre-emploi, parce que c'est un peu exagéré, mais ça changeait vachement des rôles qu'il a pu avoir. Parce que, alors, effectivement, il crie tout le temps. Ça change pas. Mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas du tout le même rôle, soit de mytho, soit un peu de mec un peu paumé ou un peu sur les bords. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment le rôle d'un acteur qui sait ce qu'il veut, mais qui est extrêmement égocentrique et égoïste, et ce qui le rend d'ailleurs insupportable, mais qui n'est pas du tout... il sait où il va, il sait où il veut aller, il veut que le film soit exclusivement... à sa gloire quasiment, il essaie de couper toutes les autres scènes avec le collectif ou avec Nadia. Donc j'ai trouvé que ce qui changeait dans son rôle, c'est qu'il n'était pas du tout, un peu à la ramasse. Là au contraire, c'était le requin. C'était le
tu ne trouves pas qu'on dirait un épisode de Serge Lemiteau où il dit le jour où j'ai été ouvrier.
Mais ouais, de ouf, moi je suis d'accord.
Sais pas.
Et même un peu de marque dans l'écocentrisme et tout, dans la flamme, enfin je sais pas.
Il y a des traits qui ressemblent, c'est vrai, mais... En fait, moi, j'ai vu ce personnage comme quelqu'un d'hyper hyper stratège, hyper un peu machiavélique, en fait. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques moments où on pouvait se dire qu'effectivement, il veut être comme un ouvrier. C'est pour ça qu'il passe tout son temps dans la maison de Jeff. Jeff qui, dans le film de Cédric Kahn, est la personne dont est inspiré le film de Simon, par contre. Et donc, il y a plein de moments où on voit Jonathan Cohen chez Jeff et où là, il surjoue la proximité avec le peuple, la familiarité, je vais rester dîner avec ta femme, tes gosses, on fait un hachis parmentier ou je sais pas quoi. Enfin, il surjoue il surjoue une proximité et on sent qu'au fond, il y a une pointe d'hypocrisie. Il fait la même chose avec l'équipe du film, alors qu'au fond... effectivement, il y a quand même une grande différence. Et il est, par exemple, extrêmement proche des deux producteurs du début du film qui sont la quintessence le pire de ce que peut être des producteurs. Et pourtant, donc, il surjoue cette proximité avec des gens dont les intérêts, en tout cas, sont mis aux antipodes des producteurs. Donc, c'était ce côté-là, un peu cet aspect un peu double du personnage qui a introduit un trait nouveau que sans doute Jonathan Cohen n'avait pas encore beaucoup joué et que j'ai trouvé intéressant.
Moi, je trouve que c'était malin d'utiliser Jonathan Cohen parce que presque, justement, moi, je trouve qu'il joue son propre rôle, justement, aussi.
Ah, bon, d'accord.
Mais je crois que c'était malin parce qu'on lui reproche souvent, justement, de prendre toute la place et d'être insupportable. Et en fait, c'est tout simplement le rôle qu'il a dans le film. Du coup, je trouvais que c'était assez bien vu. Je sais pas si c'est de l'autodérision ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouvais que c'était malin. Mais c'est clair que... Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un des points forts du film, Jonathan Cohen. Parce qu'en même temps, les quelques moments drôles, c'est le moment où il y a Jonathan Cohen.
Oui, c'est vrai ça.
Parce que je trouve que le reste du temps, je sais pas si c'est fait exprès, mais les moments d'humour, c'est plutôt des moments de gêne. Mais c'est aussi efficace, hein, mais je sais pas si c'est fait exprès. Et, mais c'est vrai que le reste des interactions entre les personnages sont assez étranges. Et pareil aussi, bah, les liens entre les deux arcs narratifs, il y a des choses que je comprenais pas du tout. Par exemple, bah, justement, l'histoire d'amour entre Nadia et Joseph, quand elle le repousse au moment où il vient dans la chambre d'hôtel, donc... pour engueuler son petit copain, et ben c'est mis en parallèle avec la scène où il raconte son traumatisme d'enfance dans le stade où il se fait repousser par Nadia. Et elle le repousse de la même manière et je ne comprends pas pourquoi ils mettent ces deux scènes en parallèle et ça n'a aucun intérêt diégétique, c'est juste visuel et du coup il y a un lien visuel et j'étais juste là en mode mais pourquoi. Et il y a un peu ce problème là où on sent qu'il y a une tentative de mettre en lien deux choses qui sont censés créer du sens et en même temps ça crée plein de choses mais on sait plus trop où on va aller et c'est assez curieux.
Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord effectivement parce que sur le fait qu'en fait c'est présenté à fond comme une comédie, c'est ce que j'ai dit au début et tout, mais c'est pas tant que ça une comédie, genre une franche rigolade où on rit de bout en bout. C'est plus un rire un peu même des fois de... Enfin, c'est, comment dire ça, un rire intellectuel dans la mesure où tu ris dans ta tête, mais tu, enfin, c'est pas un rire franc à haute voix, quoi. C'est un film qui est loin de renoncer toujours au sérieux. Je veux dire, bon, on a parlé de la scène d'ouverture. Il y a aussi le propos social qu'on a évoqué des fois, genre juste en arrière-plan avec notamment toutes les quelques scènes qu'il y a dans l'immeuble où habite Joseph. Bon, il y a sa cage d'ascenseur. Et d'escalier qui est tout tagué comme dans un film de l'Ajli d'ailleurs, mais on a aussi le questionnement sur qui sont les artistes qui ne peuvent pas se permettre de sauter deux semaines de salaire, qui est-ce qui porte le film, etc. Mais qui sont donc des éléments en fait extrêmement sérieux et qui te ramènent à intellectualiser ton expérience de spectateur, ce que t'as pas toujours envie de faire quand tu t'es dit bah, je vais voir une comédie. Mais c'est, à mon sens, pas forcément grave. C'est même assez juste parfois. Il n'y a pas uniquement un effet d'exotisme, c'est une expression assez malheureuse d'ailleurs, de diagonale du vide. Je veux dire, on ne sait pas exactement où on est, hein, ça peut être n'importe où. Et puis, et les scènes hors du plateau, à mon sens, elles ne sont pas forcément inutiles. Hein, quand il dit, ça c'est pour vous, c'est juste un décor de film, pour moi, c'est là où j'ai passé toute ma vie, je trouve ça... Enfin, je trouve que c'est amené avec une certaine justesse, mais qui brise l'effet comique, et puis qui est souvent d'ailleurs ramené toujours à un côté méta, Jonathan Cohen qui dit « c'est une putain de tragédie qu'on va tourner », etc. On est toujours sur le côté tragique que tu évoquais, et qui n'amène rien au film quand il est souligné comme tel, Nathan, comme tu le disais, avec la division en actes. Après... dans le côté aussi sérieux et attention portée aux détails, je trouve que c'est pas du tout un film qui se fout des effets de cinéma et qu'il y en a d'assez beau. Et puis on a des beaux plans, une vision d'ensemble et globale qui va avec des visions une attention portée aux détails. Hein, dire quand tu bois du vin blanc dans un verre en plastique, c'est que ça ne va pas. Mais autrement, je veux dire, donc cette vision d'ensemble, elle tient le tout en fait très bien avec de beaux effets de cinéma, de beaux plans, notamment moi sur les hauteurs de l'usine, j'ai trouvé ça pas mal du tout, et sur l'usine elle-même, qui à nouveau. Là, c'est là encore la limite du film, mais peut être lu comme une nouvelle métaphore du cinéma, cette espèce de monstre énorme, labyrinthique, du cinéma comme une usine à rêve. Mais en fait, ce qui me gêne un peu dans le film, c'est qu'il hésite sur le genre qu'il choisit, en plus d'hésiter sur le propos du réalisateur qui est toujours distancié, on va dire.
Bah, on parlait des films que Jonathan Cohen a pu tourner. Bah justement, j'ai trouvé que, pour le coup, ta description, Louis, et vous tous d'ailleurs, c'est une comédie, mais qui ne renonce pas effectivement à l'esprit sérieux et même à une part de tragique. Enfin, pas de tragique, mais effectivement, il y a la division en actes. Moi non plus, j'ai pas trouvé qu'elle servait vraiment le propos. Mais pour le coup, c'est souvent les films de Denis Poudagdès, c'est... Il y a un peu ça en fait, ce sont des comédies mais un peu grinçantes. Et bon, moi ça me plaît beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que j'ai aimé Making Of, mais c'est un film où Jonathan Cohen joue donc son propre rôle, et c'est aussi un film que Denis Poudagdès a pas déjà fait, mais enfin en tout cas c'est ouais c'est souvent les films qu'il choisit des comédies, mais toujours un peu oui où on rit enfin pas complètement ou par la gêne ou voilà. Et bon, moi c'est ça, ça m'a beaucoup plu en tout cas mais c'est, je trouve qu'il se débrouille vachement bien dans ces rôles là en tout cas. Je le trouvais très convaincant en réalisateur en Simon.
Ouais, moi je suis d'accord que c'est un gros point fort du film, ouais. Juniper Hedges. Mais par rapport au ton, effectivement, je trouve que bah, effectivement, c'est pas dommage de vouloir faire une comédie qui renonce pas aussi à un message social ou à une dimension tragique. Mais là, je trouve que c'est quand même, encore une fois, à cause de cette analogie entre le film et le film dans le film, je trouve ça assez maladroit. Encore une fois, dans la scène où ils débattent sur est-ce qu'ils vont travailler gratuitement pendant 2 semaines ou pas. Bah, je trouve que par exemple, il y a un moment un membre de l'équipe de tournage qui donne un discours assez légitime et pertinent sur le fait que bah, non, il ne peut pas se permettre de travailler 2 semaines de tournage gratuitement, que même c'est une question de principe, etc., mais que même factuellement, il ne peut pas, bref. Et en fait, ce personnage-là, il est caricaturé jusqu'à devenir agressif et violent, parce que comme tu l'as dit, ça finit en baston général. Et donc, il est décrédibilisé, et je trouve ça... Enfin, je trouve que de manière générale... y a des bonnes idées mais qui sont maladroitement conclues et encore une fois ça m'a rendu compliqué d'avoir de l'empathie pour tous ces personnages, à l'exception paradoxalement d'Alain, parce que je trouve que justement son ridicule à lui il est complètement assumé et donc bah il y a une enfin on rit de lui et donc forcément on l'apprécie. Enfin moi j'ai trouvé que Jonathan Cohen était encore une fois bon, mais je suis pas hyper objectif en parlant de Jonathan Cohen, moi il me fait beaucoup rire. Et puis aussi le personnage de Simon donc parce que bah, là encore, moi, j'adore Denis Podalydès et qu'il donne, comme souvent, comme tu l'as dit, une vraie subtilité à son personnage et aussi une tendresse très communicative. Mais en vrai, même son personnage à lui, dans les faits, je me demandais parfois s'il était vraiment beaucoup moins égoïste que celui de Jonathan Cohen. Donc voilà, enfin, moi, j'avais un peu l'impression que le film cachait la poussière sous le tapis pour tous les autres personnages, à part donc celui de Jonathan Cohen. Et que tous ces personnages devenaient des héros, ce qui illégitime, je trouve, ou en tout cas réduit la portée du propos et du message du film. Je pense que c'est ce qui a fait que j'avais du mal à y adhérer et que j'étais parfois même un peu mal à l'aise devant. C'est que, à part dans le personnage de Jonathan Cohen, il n'y a pas une remise en question vraiment générale. Même le personnage de Joseph, qui dès le début a hyper envie de rentrer dans ce milieu, bah, il n'a pas vraiment de désillusion au fil du film, ou en tout cas, il n'est pas clairement montré. Je trouve qu'il manquait quelque chose pour que ça soit vraiment... qu'il y ait ce recul critique vraiment intéressant et qui aurait permis ce parallèle avec la situation des ouvriers sur l'industrie du cinéma. Quoi.
Ouais. Ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il y avait une volonté de montrer que le cinéma, c'était aussi l'équipe technique. Mais finalement, il le fait juste autour des épisodes de conflit. En fait, même le moment de fête, il est très très court. On voit l'équipe technique s'amuser. Et du coup, c'est un peu particulier. C'est vrai que ce personnage qui s'énerve, je crois que c'est le chef mécano. Oui. En plus, il est vraiment amené, parce que je crois qu'il y a, quand ils disent justement qu'ils vont devoir faire des coupes et réduire les salaires, ils disent oui, ça passera, mais le chef mécano, c'est pas sûr. En fait, il est un peu amené comme un chieur quand même. Alors que bon, ça peut être compréhensible ce qu'il veut. Et je pense que ça, c'est peut-être un point faible du film, justement, et du côté comédie. C'est que bah, les moments presque importants, justement, où il s'agit de montrer ce que c'est que le cinéma, c'est juste des moments de conflit. Et du coup, je trouve que c'est assez dur. C'est rare que ce ne soit pas des moments de conflit. Et du coup, c'est vrai que ça donne l'impression d'un film où il crie beaucoup. Mais ça se voyait dès la bande d'annonce où ça faisait vraiment. On nous présente une comédie, mais ils sont tout le temps en train de crier. Et je trouve que ça, c'était quand même dommage parce qu'il y a on dirait qu'il y a un discours social, mais qui n'est pas appliqué. Alors, est-ce que c'est juste pour dire que Simon fait pareil dans son film et que du coup, on le fait aussi? Mais c'est un peu dommage.
Ouais, non, mais je suis d'accord effectivement sur ce enfin le côté à moitié social du film en fait, parce que il a un regard assez franc et honnête en même temps sur le cinéma. Je veux dire, la première question que pose Denis Podalydès sur le premier réalisateur du Making of, c'est le fils de qui, qui est d'ailleurs une des répliques vraiment drôles du film assumée comme telle, mais et qui enfin voilà qui indique une non seulement une présence des fils d'eux et fils et filles d'eux, mais en plus une accoutumance à ce fait-là, le fait que bon, bah, quand il y a un personnage qui dit le making of, on s'en fout, personne ne le regarde. On a encore ce producteur qui est très bon d'ailleurs, je trouve, l'acteur Xavier, enfin c'est Xavier Beauvois qui est lui-même le réalisateur, des hommes et des dieux d'ailleurs, un film qui n'a rien à voir. Bref, donc là, il est rigolo, hein, mais il est très véreux, il délègue tout à tout le monde. Je veux dire, quand Simon le confronte, il blâme son assistante, c'est enfin jamais lui. Et puis effectivement, tu notais, Yassin, il y a le côté très actuel aussi d'une certaine forme de sexisme, je veux dire, à un moment, c'est une réplique d'ailleurs qui est assez cryptique, je trouve, mais Simon l'engueule et lui dit, c'est pas avec l'argent, c'est avec les femmes que t'as un problème, quand il lui dit qu'il a engagé une assistante qui, 3 mois plus tôt, était en BTS d'esthéticienne. Donc, mais voilà, typiquement, voilà, c'est encore une fois une preuve, enfin, du côté film social en demi-teinte, en fait, et qui va pas forcément au bout de ce qu'il propose et ni au bout de son concept. Je veux dire, j'avais pas été un grand fan du procès Goldman, mais au moins il tenait la route. Alors en même temps, c'était un truc beaucoup plus réduit, hein, évidemment, c'était un huis clos, mais il tenait la route, il avait une cohérence dans son propos que là il n'y a pas. Et puis qu'est-ce que je voulais, pour en finir juste avec Denis Fedalides, j'avoue que j'aime enfin c'est effectivement pour moi un gros point fort du film. Mais d'une façon générale, je pense que les acteurs sont ce qu'il y a de mieux dans le jeu des acteurs, oui. Est vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce film. On n'a pas parlé d'Emmanuel Berco qui joue la chargée de production, oui. Mais qui est très très bonne elle aussi, et qui est d'ailleurs elle-même réalisatrice, comme Beauvois. Voilà. Et oui, mais tu parlais des films un peu grinçants de Denis Podalides. Moi, j'aime énormément aussi ces films. Dieu seul me voit est un de mes 10 films préférés, tout genre, toute catégorie confondue. Mais je me marre devant. Mais voilà, c'est un humour noir, c'est une autodérision dont tu parlais, Nathan, en début de l'émission. Et là, il n'y a pas ça, effectivement. Quoi. Mais autrement, ouais, les acteurs et les actrices sont très bons et bonnes. Moi, j'ai vraiment trouvé aussi que Joseph, indépendamment de ce qu'on peut penser de son personnage qui est loin d'être toujours sympathique, hein. Stéphane Crépon est vraiment bon, je trouve, aussi, oui, c'est vrai. Dans ce rôle-là.
Sur les scènes de conflit, ça c'est un truc, je crois, qui revient souvent, en tout cas chez Cédric Kahn, c'est... il avait fait un film qui, je crois, c'était un fête de famille, il me semble, je suis plus sûre, et c'était la même chose. C'était la même chose. Après, effectivement, on parle de la famille du cinéma, donc pourquoi pas, mais c'était pareil, galerie de personnages... un écran très partagé et énormément de moments d'engueulade. En fait, il y avait toujours une grande tension et c'était là, ça m'a fait un peu penser à ça, même si bien sûr dans un tout autre milieu. Peut-être que ça tient aussi à l'aspect finalement un peu, alors peut-être pas caricatural, mais en tout cas archétypal des personnages en fait, parce que en parlant, je me rends compte que finalement il y a le jeune premier, ça pourrait être Joseph, même si c'est pas du tout le personnage principal du film dans le film. Finalement, ça devient presque le personnage principal du film. Par contre de Cédric Kahn, donc il y a le jeune premier, la jeune première, il y a le grand méchant, ce serait Alain, après il y a donc ceux qui sont plus ou moins bons, plus ou moins méchants, c'est Simon et effectivement le financier. Le financier, moi je pense que c'est le personnage pour qui j'ai eu le plus d'empathie en fait, alors même qu'effectivement il est horrible, c'est presque à cause de lui que le film est hyper en danger, mais moi je l'ai beaucoup aimé le financier.
On déduira ce qu'on voudra.
Mais oui, je les trouve un peu. En fait, il y a deux niveaux en quelque sorte, parce qu'il y a donc cette histoire de jeune premier, l'ennemi principal en quelque sorte, et même au sein même de ce que veut faire le film, c'est-à-dire présenter le cinéma, on retrouve toute une galerie de personnages, le réalisateur, l'attaché de production, des métiers qui sont présentés en quelque sorte. Il y a presque un aspect un peu didactique, parce qu'il y a aussi l'acteur qui a un ego énorme, la jeune actrice qui commence à percer mais pour qui c'est encore difficile, qui effectivement est confrontée à quand même pas mal de sexisme. Il y a celui qui est un pied dedans, un pied dehors et qui est en grève d'envie, qui a une vocation incroyable, c'est Joseph. Donc ça présente une galerie de personnages, je pense, à la fois dans et hors du film dans le film. Enfin, c'est des deux côtés, il y a des archétypes en quelque sorte.
Oui, moi j'aimerais bien revenir sur justement ce que tu parlais là de la scène. C'était pour ça que je parlais justement de moments de gêne plutôt que de moments d'humour. Justement, le producteur où il parle de son rapport aux femmes. Parce que justement, en fait, c'est une phrase, on pourrait se dire à la limite, c'est le réalisateur qui l'a mise là et qui ne se rend même pas compte que c'est problématique. Mais comme il y a eu l'affaire Weinstein, c'est pas possible que ce soit ça.
Il lui ressemble en plus un peu.
Oui, voilà. Parce qu'en plus, il y a un physique assez proche. Et du coup, on voit que ça y fait référence. Et du coup, je trouve que ces moments finalement de gêne sont presque assez forts. Mais je pense que le problème, c'est qu'ils peuvent ne pas être captés ou être vus comme une forme d'humour de mauvais goût. Et je trouve que c'est un peu ça le problème. Mais il y a plein de moments comme ça de gêne. Il y a aussi des petites réflexions. Et j'ai l'impression que presque le propos et social du film se trouve presque dans ces petites réflexions. Et qui sont assez dissimulées. Mais du coup, je trouve que là-dessus, presque les dialogues sont plutôt bons. Parce qu'il y a des choses assez naturelles. Et c'est justement ces petites réflexions qui sont intéressantes. Il y a un moment où il y a Alain où ça. Je crois que c'est son agente qui lui dit. En gros, que tant qu'il y a une actrice de 25 ans qui joue avec lui, ça va, quoi. Et ça, c'était pas mal vu. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu à la dérobée, quoi. Faut choper dedans.
Ouais, moi, je suis assez d'accord aussi que, sur le fait que le film tient beaucoup par son casting et par la justesse du jeu de ses acteurs. Il y a une seule scène qui, je trouve, pêche... Enfin, ou qui tient pas justement parce qu'elle est pas très bien jouée, c'est la scène qui pourtant est assez importante, c'est celle avec les coproducteurs au tout début du film, alors avec Boule et Bill. Je sais pas qui est Boule, je sais pas qui est Bill, mais parmi les deux, il y a voilà, bah Leroux dans cette scène joue comme Sarkozy, vraiment. Il est là avec les épaules. Non, mais donc écoutez, ça va être simple. Et, alors je fais très mal Sarkozy, mais lui paradoxalement le fait très bien. Et j'ai trouvé ça vraiment, enfin j'étais en fou rire devant la scène, alors que c'est pas la scène la plus marrante du film. Et ça m'a un peu posé problème, mais à part ça, globalement, c'est vrai que les acteurs sont tous très bons de bout en bout. Et l'actrice qui joue Nadia, dont j'ai pas retenu le nom, mais que je connaissais pas du tout et qui est excellente aussi. Et en vrai, son duo avec Stéphane Crépon, j'ai du mal avec les deux personnages, donc moi j'étais pas du tout impliqué, mais ils ont une certaine alchimie à l'écran. La scène où ils sont sur le toit de l'usine est plutôt jolie. Voilà. Et ouais, pour finir, moi, j'aurais pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que au niveau des défauts, il y a un autre truc qui revient beaucoup dans le film et dont j'avais déjà parlé la semaine dernière, c'est les fondus au noir. Et là, ça commence vraiment à me taper sur le système. Surtout que là, on se retrouve avec des fondus au noir pour conclure des scènes comme l'évanouissement de Simon. À un moment, il y a le réalisateur qui s'évanouit. C'est un climax du film. Qu'est-ce qui lui arrive ? Fondu au noir, 2 mois plus tard. Frère. Enfin, non, genre ça m'énerve. Et le pompon étant le fondu au noir qui clôture le film. Enfin, vraiment, ça m'a rendu fou. Moi, je le dis maintenant, on a un peu d'influence, on a une émission, donc je le dis à l'intention de tous les réalisateurs, arrêtez avec vos fondus au noir. Je n'en peux plus, il faut arrêter. Voilà. Sauf Sofia Coppola, parce que dans Priscilla, ça marche bien. Voilà.
On met des petites transitions à la Star Wars.
Exactement, prenez exemple sur George Lucas.
Voilà, et c'est un très très beau mot de la fin pour Making of, un film de Cédric Kahn en salle depuis le 10 janvier. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils et on commence avec Claire.
Donc moi, pour rester dans le féminisme encore un petit coup, je vous conseille donc le livre de Iris Bray. Ça s'appelle donc Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et en fait, je trouve que c'est un petit livre théorique qui résume pas mal toutes les grandes théories qu'on a pu à peu près entendre par-ci par-là. Et elle fait des petites analyses de films qui sont assez sympas, ça donne envie de voir... pas mal de films de grandes réalisatrices et c'est assez chouette à lire, ça se lit facilement. Voilà.
Merci beaucoup. On peut l'envoyer à Cédric Kahn d'ailleurs parce que ça manque un peu dans son film. Le conseil de Clémence.
Alors moi, c'est un autre film qui est sorti l'année dernière et que je n'ai vu que récemment. C'est Les filles d'Olpha de Kauter Ben Anya. J'ai beaucoup aimé. Alors c'est dans tout autre registre, c'est absolument pas une comédie. C'est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une fratrie de 4 filles et de leur mère en Tunisie. C'est une histoire assez tragique et là pour le coup le mot est approprié. Et donc une partie des protagonistes joue dans le film. Donc un très beau film, très émouvant et avec un entrelacement entre fiction et réalité qui était très intéressant.
Merci beaucoup. Le conseil de Nathan.
Alors moi je voulais conseiller le film The Nice Guys qui est disponible en VOD c'est un conseil un peu gratuit, il n'y a pas de lien avec le film d'aujourd'hui si ce n'est que c'est une comédie, une vraie comédie, cette fois une comédie où on rigole. Et puis oui, je l'ai revu ce week-end en fait et ça m'a conforté dans mon amour pour ce film qui est définitivement mon feel good movie par excellence et un de mes films préférés. C'est donc une comédie de Shane Black, c'est une parodie de films noirs, de buddy movie avec un duo d'enquêteurs dans le Los Angeles des années 70. L'histoire est complètement barrée, absurde, juste comme il faut, et pour autant très bien tenue. J'ai vu beaucoup de critiques qui lui reprochaient ce manque d'inventivité, et je m'y oppose fermement, car non seulement déjà Shane Black joue avec les codes de ce genre de film, donc oui, il y a des références, il y a des conventions, il y a des clichés qui sont attendus, mais on s'en délecte, et c'est ce qui fait le plaisir du spectateur devant le film. Et puis en plus, je suis tout bonnement pas d'accord. Enfin, c'est hyper bien écrit, c'est très très drôle déjà. Il y a plein d'esprit, plein de finesse. Des personnages hauts en couleur et aux trajectoires, certes pas révolutionnaires, mais en tout cas extrêmement précises. Et servis par un excellent casting, notamment Ryan Gosling, qui est hilarant dans, à mes yeux, l'un de ses meilleurs rôles avec Lars and the Real Girl. Et son duo avec Russell Crowe, qui est l'autre pan du duo, est un régal. Et il y a certaines scènes de dialogue qui vraiment moi, me filent un fou rire à chaque fois que je le regarde. Donc il y a des répliques qui fusent, un sens du tempo comique des acteurs vraiment au top. Enfin bref, c'est une vraie bulle colorée d'humour et de plaisir que je vous conseille fortement.
Quel bonheur, merci beaucoup Nathan. Et enfin le conseil de Cassien.
Alors moi je vais vous conseiller un film pour le coup qui est un film, une autre comédie sur un tournage de cinéma et que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Maestro, c'est sorti en 2014, c'est disponible en VOD et en DVD. Et c'est un film donc, de Léa Fazer. Elle a fait le scénario avec Jocelyn Quivrin. Et Jocelyn Quivrin, c'était un acteur de Eric Rohmer. Il avait joué avec lui sur L'Astrée et Céladon. Et il avait justement. Donc, justement, en fait, le film parle du tournage de L'Astrée et parle du fait que c'est un acteur incarné par Pio Marmaille qui a besoin d'argent globalement. Et du coup, qui arrive à tourner sur ce film d'auteur donc, d'un réalisateur qui est vu comme étant Eric Rohmer et qui est incarné par Michael Lonsdal. Et en fait, qui va plus ou moins faire un peu une rencontre de sa vie en fait, auprès de cet homme, alors qu'il y va juste de base pour l'argent. Et je trouve que cette comédie est assez juste et assez touchante et assez humaine. Elle est vraiment drôle, plus de ça. Donc je trouve que c'est un très bon film.
Merci beaucoup, Cassien. Enfin, mon conseil à moi, c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir la semaine dernière dans le cadre de la semaine de reprise du Festival Télérama, et je m'entends parler, c'est horrible. Mais bon, bref, que j'avais donc pas pu voir du tout l'an dernier, comme Les Filles d'Olpha, qui était sorti en janvier dernier, enfin voilà, pour des raisons de prépa, concours blanc, DS d'histoire, Quizlet, toutes ces bêtises. Et que donc je suis très heureux d'avoir pu voir et rattraper la semaine dernière. C'est Nostalgia de Mario Marton, qui aborde avec intelligence, nuance et subtilité le retour 40 ans après son départ précipité à l'âge de 15 ans, donc le retour de Felice dans sa ville natale de Naples. Alors, qu'est-ce qu'il y appelle vraiment ? Est-ce que c'est la prescience de la mort à venir de sa mère ? Est-ce que c'est un passé qui est toujours pas soldé ? Est-ce que c'est un retour aux racines ? Le film aussi entre la nostalgie de son personnage, sentiment sans lequel, d'après la citation de Pasolini en exergue du film, il est impossible de se connaître, et son estrangement, pour employer un anglicisme, dans une ville dont il n'a plus parlé la langue, le voisinage ou la religion depuis des années. En peignant Naples d'une façon exceptionnelle, le film épouse le point de vue de son personnage de façon délicate et sans facilité. On est ému de le voir conjuguer à la fois sa vie en Égypte, qu'il vit un peu en distanciel pendant tout son séjour à Naples, donc en Égypte où il s'est marié, où il s'est converti à l'islam, et sa vie retrouvée à Naples, où il retrouve petit à petit le quartier qu'il a connu, où il œuvre d'ailleurs avec un prêtre vigoureusement engagé contre la violence des jeunes de ce quartier de la Sanita où a lieu le film. C'est brillamment construit, ça lie au fort de son scénario des idées de cinéma et de mise en scène extrêmement puissantes. Donc voilà, si on met un peu de temps à rentrer dans le film, c'est aussi parce que son personnage met du temps à rentrer dans Naples, mais cette progressivité est fabuleusement rendue par l'immense acteur qui est Pier Francesco Favino, qu'on voit pas assez en France, je trouve, mais qu'on avait vu dans Le Traître, hein, notamment. Difficile d'en dire plus sans spoiler, aussi je vous laisse vous faire votre avis, le film est en VOD et en DVD. Tous ces conseils très variés mais très bons, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les quatre, Claire, Clémence, Cassien et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des très attendues Pauvres Créatures. Comme d'habitude, ce sera directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.